On est dans Job chapitre 38. Et avant de me lancer dans la lecture et l'étude de ce texte, je suis tombé sur cette histoire très ancienne et pourtant probablement racontée maintenant depuis des siècles. Une histoire qui s'est passée il y a de cela près de 1000 ans, sous le roi Canute. Le roi Canute était bien connu il y a 1000 ans, un grand roi de l'époque qui a régné pendant plusieurs années, qui a eu un grand rayonnement. Et l'histoire est célèbre du roi Canute qui, un jour, est allé se placer sur le bord du rivage, alors qu'il est au paroxysme de son autorité de roi. Et il s'est placé sur le rivage de la mer, s'est assis sur une chaise et a regardé la mer, et il a déclaré à la mer, « Tu t'arrêtes ici, la marée, tu ne monteras pas. » Et effectivement, la marée n'a jamais monté. Ben non, c'est pas vrai. Ça serait des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? Ben, il s'est mouillé les pieds, il s'est mouillé à la chaise, puis tout ce que tu voudras. Et dans l'humour du Seigneur, mais aussi dans l'humour de ce roi, il a dit ceci après. Parlant de l'orgueil humain, la prétention humaine parfois qu'il peut y avoir, de faire des déclarations, d'exiger des réponses. Il dit que le monde entier sache que le pouvoir des rois est vide. C'est le roi lui-même qui dit ça. Il dit-il ensuite, « Sauf celui qui obéit à la volonté du ciel et de la terre et de la mer. » Et l'histoire de Canute met en évidence un point important. Dieu seul est l'être tout-puissant auquel nous avons l'essentiel des réponses que nous avons besoin et devons soumission. Et l'histoire que nous sommes dedans, le livre de Job, est rendue à ce tournant où nous sommes devant le joyau de ce livre, un monologue de 4 chapitres, unique dans les Écritures, un monologue de 4 chapitres où Dieu répond à Job, mais pas comme il pensait. Mais ça va être meilleur que ce qu'il pensait. Il va rencontrer Dieu. Et j'aimerais vous commencer par vous lire ces quelques versets avant d'aller plus loin. L'Éternel répondit à Job au chapitre 38, verset 1. Du milieu de la tempête, une tempête dont les versets précédents semblent faire un lien avec les paroles d'Élihu, qui semblaient se poindre à l'horizon. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par ses discours sans intelligence, demande Dieu. S'interrain comme un vaillant homme. C'est-à-dire, mets ta ceinture, remonte ta robe ou remonte ta tunique pour pouvoir travailler dans les champs ou remonte ta tunique pour pouvoir aller te battre au combat. S'interrain, ça veut dire prépare-toi, mon homme. On va se rencontrer. OK? S'interrain comme un vaillant homme et je t'interrogerai et tu m'instruiras, dit l'Éternel. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau pour mesurer? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors, que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, allusion ici à la création de Dieu et des anges dans les cieux qui chantaient, qui glorifiaient Dieu de voir la création de Dieu se faire. Qui a fermé la mer avec ses portes? Qui a mis ses limites? On revient ici à notre histoire de Canute. Quand elle s'élança du sein maternel, comme si la mère ici était en train de naître, quand elle est sortie du ventre de sa mère. Il utilise beaucoup des images ici de naissance dans ce langage poétique pour parler de la naissance de la terre. Quand je fis de la nuée son vêtement et que l'obscurité ses langes, quand je lui imposa ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, au flot de la mer, évidemment. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. C'est intéressant ce mot, orgueil de tes flots. Certainement ici, en train d'adresser le défi humain de l'orgueil, de notre prétention arrogante envers Dieu, d'exiger des réponses, de prétendre connaître, de déclarer des choses sur Dieu et pourtant d'être à côté de la plaque. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée par un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'as-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mer ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Parle, si tu sais toutes ces choses. Prions, Seigneur. Père Céleste, c'est ta parole qu'on vient de lire et c'est tes paroles à Job. Après des chapitres et des chapitres et des chapitres d'absence apparente, de questionnement humain, de conflit humain sur qui est Dieu, sur qui comment il gère avec la souffrance et comment interagir dans les moments difficiles, alors que l'homme n'arrive pas à se consoler dans la difficulté de la maladie, de la souffrance, du deuil, et qu'on voit ces hommes se chamailler, s'ostiner. Tout à coup, tu parles, oh Dieu. Enseigne-nous ce matin, par tes paroles, par tes questions, Seigneur. Parle-nous. Je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Quand c'est Dieu qui pose les questions, ah, c'est facile, nous autres, poser des questions. Mais c'est plus inconfortable de se faire poser un paquet de questions. Et évidemment, les questions ont un but très précis. On est ici après tous ces longs discours entre Job et ses amis, ces obstinations, et ce fameux Élihu qui vient tout à coup amener une cerise sur le Sunday, qui semble un peu plus sensé que les autres, et qui semble aussi préparatoire à ce que Dieu va parler maintenant aussi au chapitre 38 à 41. Quatre chapitres de monologue de Dieu qui répond, mais qui répond pas comme je pensais, pas comme je voulais, et qui produit pas ce que je pensais non plus. Et vous en suivre la confession de Job. On a passé cinq sermons à passer les 35 chapitres centrales du livre pour comprendre si nos luttes intérieures humaines, nos dialogues, nos perceptions de Dieu quand on souffre, comment qu'on manque des fois les uns envers les autres pour s'encourager, c'est quoi qu'on recherche, c'est quoi nos désirs profonds, les luttes quand on est dans la souffrance, on les a vus à travers ces dialogues. Ces aspirations humaines, ces questions sans réponse qu'on cherche, ces frustrations quand on n'a pas de réponse et qu'on a juste du silence. Et là maintenant, les trois derniers sermons de cette série, on en a deux à juste écouter Dieu parler, Dieu questionner, Dieu répondre sans répondre. Dieu répondre par des questions, mais sans nous donner la réponse que je voulais parce qu'il ne peut pas lui dire. Il y a ici un concours céleste où un homme est mis à l'épreuve par Satan pour prouver que les hommes te suivent seulement, Dieu, à cause de ce que tu leur donnes. Si tu leur enlèves tout, puis que juste toi dans balance, juste t'aimer toi, purement, sans avantage, ils ne voudront pas de toi. C'est l'honneur de Dieu ici, la valeur de Dieu. Il dit, Job, c'est un homme intègre, il n'y a pas un homme comme lui. Ben ouais, mais il enlève-y ça, puis tu vas voir. Il ne peut pas lui dire ça, Dieu. Job est dans ce concours, sans savoir pourquoi il vit ce qu'il vit. Mais Dieu lui lance des questions pour enseigner quelque chose d'excessivement précieux et nécessaire pour chacun d'entre nous. Et on doit l'écouter. Ça adresse des questions comme celle-ci. Dieu veut te faire réfléchir. En français, dans notre Bible, on a à peu près 80 points d'exclamation en quatre chapitres. Évidemment, d'une version à l'autre, ça peut changer un petit peu où qu'on coupe les phrases, etc. Mais il y en a un paquet de questions. Dieu doit-il nous rendre des comptes? C'est la question. Est-ce que je te dois des explications quand ça va mal? Est-ce que parce que tu poses une question, j'ai l'obligation, comme Père Céleste, d'y répondre comme toi tu veux, dans le délai que tu veux, avec toutes les intrigues derrière le rideau qui t'échappe complètement? Dieu mérite-t-il ma confiance entière en absence d'explication? Et que même que ça paraisse mal, parfois, on peut déduire de la situation dans notre rapport avec Dieu. Pourquoi l'homme demande-t-il à Dieu de lui rendre des comptes? Et la réponse est assez simple. Déjà au verset 11, une lueur de l'attitude des flots qui frappent et que Dieu met des limites aux flots orgueilleux. C'est notre orgueil, c'est notre arrogance. Et pourquoi? Bien, c'est ce qu'on va adresser ce matin dans ces paroles qu'on va regarder ensemble. Le discours qu'on va regarder ce matin est divisé de cette façon-ci. On va regarder deux chapitres ce matin et deux chapitres dans deux semaines pour terminer le 1er décembre. Et ici, l'Éternel interroge Job sur les merveilles de la nature pendant un chapitre, les merveilles inanimées. Tu comprends-tu ça? T'as-tu déjà vu ça? D'où ça vient ça? Et il adresse des questions là-dessus. Et dans le chapitre suivant, c'est le monde animal qui est adressé. Des questions sur plusieurs bêtes qui épatent, qui sont mystérieuses, dont le Créateur signe un ouvrage qui est si spécial, si unique. Et les résumés, évidemment, de ces interrogations dans la dernière question avec Job, pour en finir avec sa réponse, une première réponse de deux. C'est pas assez. Dieu embarque dans une deuxième ronde, qu'on va regarder dans deux semaines, de questions. Une deuxième vague de questions, très différente cette fois-ci, en prenant deux bêtes pour lui enseigner sur son attitude. Et c'est là qu'on est. Enfin, la requête de Job lui est accordée. Dieu lui parle maintenant, après tant de semaines, de mois, de dialogues, de frustrations, de déceptions d'hommes qui l'ont pas consolé, de jugements contre lui-même, de réclamations d'être entendu devant Dieu. Enfin, Dieu répond. Il lui parle à travers une tempête. À maintes reprises, il avait demandé que Dieu se manifeste. Il avait cet espoir. Au chapitre 13, au chapitre 31, il espérait un arbitre pour faciliter cette rencontre-là, un avocat, un intercesseur. Cependant, la réponse de Dieu ne semble en rien à ce que Job avait imaginé. Le patriarche avait voulu être entendu devant un tribunal pour avoir l'occasion de prouver l'injustice des assauts divins qu'il vivait à répétition. Mais au lieu de répondre aux accusations du plaignant, Dieu interroge. Il revire la situation de bord. Au lieu de répondre à la citation à comparaître que lui lance Job, Dieu suscita Job à comparaître à des questions. Au lieu d'expliquer à Job l'existence du mal ou du rôle de la souffrance, Dieu lui reproche d'avoir osé contester son chemin, ses voies, au moyen d'un paquet de questions auxquelles Job ne répond pas une seule fois. Dieu l'interrogea sur d'innombrables aspects de la nature inanimée et inanimée. Et ces deux examens de sciences naturelles englobaient tous les étoiles de la terre, des bêtes aux oiseaux. Il évoque dans toute leur splendeur les merveilles de la création dans l'espace, le ciel et sur terre. Le plaignant, bouche bée face à cette pluie de questions, échoua à ces deux longs examens, mais rencontra Dieu face à face. Il fut rassuré en réalisant que malgré tout, Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu entendait. Cette confrontation divine que nous donne le plus long monologue rapporté dans toutes les Écritures, un texte unique. Et je dois vous dire que depuis des semaines et des semaines, je convoite ce moment. J'avais hâte d'arriver après ces longs dialogues qui peuvent parfois être lourds. Oui, qui révèlent des choses sur nous, qui nous révèlent notre besoin de Jésus et plusieurs choses qu'on a pu regarder. Mais là, on arrive là, à Dieu qui parle. Et c'est ce qu'on aspire tout au long de notre lecture de Job. Enfin, Dieu qui parle. Maintenant, Dieu retourne la situation et pose à Job des questions différentes qui montrent sa sagesse et sa souveraineté. toute son intelligence et son discernement qui nous dépasse, et son contrôle total comme Père céleste, son contrôle total comme Créateur bienveillant. Et il le déclare par ses innombrables questions. Innombrables questions. Des questions, évidemment, sur la création, des questions cosmologiques, sur le cosmos, des questions océanographiques, sur toute la manière dont se fait le sol en dessous de la mer et comment c'est fait. Il va sortir plusieurs choses de ça. Il va parler, évidemment, des animaux, de la météo. Il va parler des étoiles, d'astronomie, pour confronter Job à ce que seulement le Créateur peut avoir comme réponse. Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Dieu m'aime. Il nous aime comme créature. Il ne nous veut pas du mal. Et Dieu sait ce qu'il fait. Je le répète, Dieu sait ce qu'il fait. Et là, évidemment, quand on est dans l'épreuve, quelqu'un qui nous dit ça, la réponse est assez facile. Ben oui, c'est facile pour toi de dire ça. Dieu sait ce qu'il fait. Et il y a une dame, il y a un certain temps, qui me confrontait à ça. Elle était, et je pouvais comprendre, très déçue, frustrée. Une situation qu'elle vivait, et elle sentait de l'injustice. Et dans ce cas-ci, même si je n'étais pas la cause de sa frustration, j'en participais par différentes circonstances. Et elle me dit tout simplement, « Ouais, mais c'est facile ça, dire Dieu est souverain. » Et là, tout à coup, ma face a changé. Je n'avais jamais planifié cette réponse-là. Et je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé en moi. J'ai dit, ma sœur, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de dire. Parce que quand je te dis que Dieu est souverain, je le dis à l'intérieur de moi avec plein de souffrance. J'ai le goût de pleurer. Parce que ça veut dire que je fais la paix en disant ça. Avec plein de choses que Dieu a arrivées dans ma vie, que je n'ai pas encore des réponses. Plein de choses qui me font excessivement mal et qui me donnent beaucoup d'anxiété à l'intérieur et que je fais la paix avec en te disant que Dieu est souverain. Je suis en train d'accepter telle chose, telle chose, telle chose dans ma vie et je trouve ça difficile et j'ai le goût de pleurer devant toi et je me retiens parce qu'il y a plein de monde ici. Et quand je te dis que je crois que Dieu est souverain, je ne suis pas en train de lancer une phrase en l'air comme ça. Je le dis avec une profonde conviction parce que je suis en train de faire la paix en le déclarant ici, une déclaration de foi que tout ce qui arrive dans ma vie, j'accepte que ça vient de Dieu, que Dieu me veut du bien, même s'il y a des choses qui me dépassent complètement, que j'ai de la misère à pardonner, que je lutte avec, qui me crée de la souffrance profonde. Et quand je dis, je crois que Dieu est souverain, que Dieu sait ce qu'il fait, je suis en train de dire que tout ça, c'est correct dans ma vie. Tu penses que je trouve ça facile de dire ça? Et là, je vous donne les émotions que je vivais à ce moment-là. Dire cette déclaration, je crois que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il est souverain dans ma vie, est une déclaration de foi qui devrait nous faire frémir à l'intérieur. Si je crois que, c'est-à-dire que je fais la paix et j'accepte tout ce qui s'est passé dans ma vie, même si je n'ai pas encore toutes les réponses. Qu'on est prêt à dire ça? Ça fait réfléchir. Pensez au passé que vous avez vécu. Dieu sait ce qu'il fait. C'est la foi profonde du chrétien en son Créateur. Sachant que ce Créateur-là a pourvu une solution ultime à tout. Ces problèmes-là dans la personne de Jésus, qui ultimement sera le seul à vivre des vraies souffrances en étant 100% innocent. Et qui va le faire pour vous et moi. C'est ce qui vient tout boucler, la boucle des souffrances. OK, si le Seigneur le fait avec son propre fils qui lui est innocent et que c'est pour mon bien, il y a un paquet de choses que je ne comprends pas. Que Dieu me protège de le juger. Que Dieu me protège de railler, de poser des questions tendancieuses. Que Dieu me protège. Mais nous comprenons tous comment c'est difficile de déclarer ça. Il demande un cheminement dans nos cœurs pour arriver à dire cela. Sinon, on ne peut pas déclarer ça devant tant de possibilités de colère dans nos vies et d'irritation et d'incompréhension. Un petit résumé ici d'un auteur que j'ai apprécié qui résumait en petit paragraphe ce qu'on est en train de lire. Il dit, ici, nous arrivons au point culminant du livre. Dieu parle à partir d'une trompette, brisant le silence, accomplissant le profond désir de Job, mais plutôt de défendre Job de ses ennemis, ce que Job espérait, ou de le reprendre au grand plaisir de ses amis pour dire « t'avais tort » puis ses amis avaient raison. Dieu fait simplement appel à la sagesse humaine en démontrant avec force, à maintes reprises, à partir de la création, à la fois son origine et son essence, que la sagesse n'appartient qu'à Dieu et Dieu seul, parce qu'il est créateur. Et dans ce premier discours, Dieu commence par poser les questions fondamentales de toute la sagesse humaine. Qui est celui qui obscurcit? Alors que ma parole, lorsqu'elle sort, elle éclaire. Il y a des paroles qui sont sorties. C'est qui est en train d'obscurcir mes desseins? Et c'est Job, dans ce cas-ci. Et c'est les paroles des amis, dans ce cas-ci. Ou est-ce que les questions étaient trop loin? Oui, Job a fait des belles déclarations de foi. On fait des déclarations sur Dieu merveilleuses. A aussi manifesté son désir de rencontrer Dieu. A demandé à Dieu des choses. Mais aussi, à force d'être irrité par les jugements, à un moment donné, a commencé à se débattre, à sentir de l'injustice, l'acharnement de la part de Dieu. Et il a commencé à le communiquer. Et à un moment donné, à communiquer des paroles aussi qui, finalement, n'étaient pas édifiantes. Et démontrait à certains moments donnés comme s'il méritait les réponses de Dieu devant l'injustice qu'il vivait. Ironiquement, vous savez, Dieu va parler à travers une tempête avec un grand vent. Qu'est-ce qui avait amené la mort de ses enfants? Un grand vent. Un grand vent avait fait tomber la bâtisse sur ses enfants qui étaient morts lors d'un party familial. Et tout à coup, dans une tempête, dans un grand vent, c'est maintenant Dieu qui se révèle, ironiquement, et se fait connaître à lui. Et Dieu le fait à travers le passé, vous savez, que ce soit Israël, devant le mont Sinaï, aussi dans une sorte de tempête, dans une grande voix, que ce soit aussi auprès de Élisée. Dieu se manifeste parfois à travers des grands phénomènes comme ça. Et Dieu commence par faire des reproches au verset 2 et verset 4, il dit, ben, prépare-toi à y répondre maintenant. Donc, il exhorte à se préparer et se mettre en place pour un combat ou pour se mettre au travail et adresser ce défi au verset 11 qui semble clairement parler d'orgueil et de notre orgueil humain lorsqu'il parle d'arrêter l'orgueil de tes flots, en parlant de la mer, mais en parlant des flots aussi, de nos arguments, de nos raisonnements humains et de notre arrogance de demander à Dieu des comptes. Vous savez, lorsqu'on lit ici toutes ces choses-là et qu'on regarde l'étude scientifique que fait depuis un siècle et les progrès qui sont faits à connaître de plus en plus comment notre monde est fait, la gravité, comment on explore maintenant de plus en plus le ciel, les astres, etc., on découvre beaucoup de choses. Les scientifiques savent que notre planète se trouve exactement à la bonne distance du soleil pour bénéficier de sa chaleur. Un peu plus près et toute l'eau s'évaporerait, comme sur Vénus. Un peu plus loin et toute serait congelé, comme sur Mars. La Terre a également aussi une bonne taille pour générer la bonne quantité de gravité dans la manière dont Dieu le fait pour maintenir. Une gravité moindre rendrait toute stérile dans une apesanteur, comme notre Lune, tandis qu'une gravité trop forte piégerait des gaz toxiques qui étoufferaient la vie humaine sur Terre comme sur Jupiter. Dieu a fait ça d'une façon incroyablement parfait, équilibré, la signature du Créateur, alors qu'on approfondit les sciences, devrait nous amener à genoux devant la complexité de l'infime que nous comprenons, qui montre comment Dieu fait un œuvre extraordinaire dans la création, et pourtant l'arrogance humaine tente de conclure autrement. Les interactions physiques, chimiques, biologiques complexes qui composent notre monde portent l'empreinte d'un concepteur sophistiqué, intelligent, attentionné, dans les moindres détails. Il nous amène ici à écouter ses questions et à tomber à genoux. Plutôt qu'écouter les bêtises humaines, par exemple, je vous donne un exemple ici de Stephen Jay Gould, grand évolutionniste, paléontologue connu de Harvard, qui va faire cette déclaration suivante à place. Vous avez cette option-là aussi. Gould va dire, nous existons parce qu'une sorte de poisson étrange avait une curieuse forme de nageoire qui pouvait se transformer en jambe pour les créatures terrestres. Parce que la Terre ne fut jamais complètement gelée pendant les périodes glaciaires. Parce qu'une petite espèce tenace qui a vu le jour en Afrique il y a un quart de million d'années a réussi jusqu'à présent à survivre coûte que coûte. Nous pouvons désirer une réponse plus noble, mais il n'y en a pas. Voilà ce qu'une vie d'étude de Stephen Jay Gould nous offre comme alternative à ce livre qui nous dit non, il y a un créateur intelligent, aimant, un papa céleste qui, même dans notre égarement, pourvoit un moyen de sauvetage à l'être humain, tellement qu'il nous aime, même si cette bouée de sauvetage, c'est pour sauver des gens qui l'ont rejeté, des gens qui ont craché sur le Créateur, qui ont désiré prendre des statues et autre chose pour devenir leur Dieu. Non, il passe par-dessus tout cela et amène un plan de sauvetage tout à fait inimaginable dans la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que les Écritures nous ajoutent à tout cela? Alors, tu as des questions, eh bien, attache ta tuque, j'en ai aussi pour toi. Il nous donne les merveilles de la nature. Dieu parle à partir d'une tempête et brise le silence, accomplissant les désirs et l'aspiration de rencontrer Dieu de la part de Job. Tout est parfaitement placé, et c'est ce qu'on vient de mentionner ici. Et Colossiens nous dit ceci, l'apôtre Paul, « Tout a été créé par lui et pour lui, pour l'honorer, pour le glorifier. » Encore, le livre aux Hébreux nous dit ceci, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu et non par des créatures chanceuses. Non, par des planètes qui se sont heurtées et qui n'avaient pas de témoins et qui ont eu un bon chanceux. Hein? » Ça fait beaucoup de birdie en peu de temps pour réussir à faire tout ça dans le système planétaire. Et personne ne le vit sur Terre, ces birdies à répétition qui amènent tout cela. Alors, il doit y avoir d'autres réponses. J'aimerais vous faire regarder avec vous les versets à partir de 30. Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaîné. Est-ce que toi, tu attaches ou tu noues les liens des Pléiades? On en a parlé déjà des Pléiades, hein? C'est le groupe de 7 étoiles qui sont dans le signe céleste du taureau, qui sont ensemble, qui restent ensemble dans le ciel. Et c'est-tu toi qui les attaches ou est-ce que tu détaches les cordages d'Orion, ce personnage qui se trouve aussi dans les cieux, dans une des constellations? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Les 12 signes du zodiaque? Est-ce que c'est toi qui les fais paraître en leur temps? Et ça, déjà, pour les chrétiens, c'est une drôle de question qui peut paraître un peu malaisant. Ici, il n'est pas en train de dire, est-ce que c'est toi qui fais paraître les signes de l'astrologie? Hein? Ça, c'est le mauvais usage de l'astronomie. Mais il y a des réelles constellations identifiées dans l'astronomie, des étoiles qui ont des noms, des constellations qui ont des noms et qui ont été créées par Dieu et qui apparaissent en leur temps dans ce grand... Est-ce que c'est toi qui fais paraître en leur temps, Job? Ah ouais, les 12 signes, tu sais que c'est étrange. Est-ce que tu conduis le grand ours et ses petits? Encore là, une autre déclaration particulière. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Et là, etc. Il continue ici. Et ce qu'on voit finalement dans ces versets que je résume, on voit ceci, il parle de la venue de l'aurore, on l'a lu plus tôt, les profondeurs de l'abîme, l'étendue de la terre, tu connais ça, tu as été là au fond, tu les as inspectés, tu peux me répondre des questions sur tout ça. Lumière et ténèbres, rien de tout ça, rien de tout ça. Et Dieu est en train de dire en somme ici, ben, moi je peux te le dire parce que c'est moi qui ai tout créé ça. C'est moi l'inventeur de tout ça. Un jour, Un prix Nobel de physique, M. William Boyle, mort il y a juste une dizaine d'années, est allé dans sa ville, je pense qu'il venait de Nouvelle-Écosse, il était là à Halifax pour acheter un Kodak et un appareil de photo numérique. On est ici au début des années 2000, il est mort en 2011. Et il s'est rendu dans un magasin et le vendeur a essayé d'expliquer à M. Boyle la complexité de l'appareil. Mais après un certain moment donné, il a arrêté parce qu'il avait l'impression que le monsieur ne comprenait pas. Et là, M. Boyle a simplement dit ceci, pour mettre le monsieur à l'aise et lui faire comprendre, il dit, écoutez, je n'ai pas besoin de vos explications, c'est moi qui l'ai inventé. M. Boyle avait le prix Nobel de physique. Il était le co-inventeur de l'œil électronique à l'origine de l'appareil photo numérique et du télescope Hubble. J'ai pas besoin que tu me l'expliques. C'est moi qui l'ai créé. Et Dieu ici rappelle à Job, à tout cela, je te pose des questions, mais c'est pas vraiment pour que tu y répondes. Tu aurais de l'air fou. Fais juste écouter les questions. C'est parce que c'est moi que tu as fait ça. C'est ça que sous-entend chacune de ces déclarations. Que ce soit sur les ténèbres, la lumière, sur la neige, sur la grêle, qu'on a passé par-dessus ces quelques versets-là, d'où il vient la neige, la formation complexe, tout ça qu'aujourd'hui, les gens étudient la météorologie pour comprendre. Et encore là, même s'ils comprennent, ils font toutes sortes de prédictions. Et est-ce qu'on peut baser toutes nos vacances sur les prédictions de Miss Météo à TV? Non, sinon vous allez scraper bien les après-midi à vous enfermer chez vous pour rien. Dieu sait combien de journées de plage qu'on peut avoir manquées en regardant la météo et pas avoir fait notre activité qui finalement aurait été... Parce que qui est capable de tout contrôler, expliquer tout cela? Le Créateur. La pluie, la rosée, la glace, le givre, la formation de toutes ces choses-là, complexes. Les astres et même les phénomènes célestes existent indépendamment de la volonté de l'homme complètement. Tu comprends tout ça, Job? Le mouvement des planètes, etc. Et tantôt, j'ai mentionné le grand ours, et avant d'aller vers l'autre point, juste vous remettre ici la planosphère, parce qu'on a parlé de l'ours qui est juste ici, on parle d'Orion qui est juste ici, on parle du taureau de dans son épaule, on parle de différents astres ici, qui sont là dans les cieux. Et ce que vous avez ici, c'est les 48 signes qu'on retrouve dans toutes les planisphères, qu'on retrouve de l'Antiquité, sur les continents, que ce soit en Égypte, que ce soit à Babylone, chez les Chinois, ou que ce soit encore chez les Aztèques, on va retrouver les mêmes 48 signes qui existaient il y a 4000 ans et qui sont sur les mêmes planétosphères alors qu'ils étaient sur des continents différents il y a 3000 ans puis il y a 2000 ans. Ils avaient les mêmes étoiles, les mêmes noms, les mêmes constellations qui apparaissent dans le monde entier à des peuples qui ne se parlent pas tous entre eux et qui ont pourtant les mêmes signes dans les cieux. D'où est-ce qu'ils trouvent leur réponse? Il dit... C'est Dieu qui fait paraître en leur temps ces signes. Ah, peut-être on l'a utilisé ces signes-là pour faire de la diseuse de bonne aventure, dire des choses sur ta vie si t'es né sous tel signe, tout ça, puis dire toutes sortes de choses qu'on appelle l'astrologie, qui n'est pas de la science, qui est du charlatanisme, qui est du ridicule. Mais ça fait toujours partie du fantasme humain de vouloir connaître l'avenir. Alors que Dieu ne veut pas ça pour nous. Mon avenir, c'est Dieu. C'est lui ma sécurité. Et quand j'accepte de prendre d'autres choses, je suis en train de tasser Dieu pour jouer à l'avenir. Et on utilisait des choses que Dieu a créées. Et certains, tout comme moi-même, croyons que ces astres étaient utilisés à une certaine époque pour être une sorte d'histoire de l'Évangile à l'époque où la parole n'était pas écrite. Mais c'est tout un autre sujet. Mais on parle aussi de cette petite astre ici qu'on connaît bien, parce qu'on le voit tout, juste ici, le lion, ah, pas le lion, l'ours. Hein? Vous savez, dans les vieilles planétosphères, puis quand on regarde les noms, ce n'est pas un ours d'un. Vous n'avez jamais trouvé un ours avec une queue comme ça. Là. Bonne chance. Et là, il dit, et c'est petit. Et là, il n'y a pas rapport de c'est petit. En réalité, les noms, parce que vous voyez qu'il y a 7 étoiles principales, là, qu'on peut voir la casserole en envers selon le temps de l'année, etc. Mais comment on a les noms de ces grands astres-là, de ces signes? Bien, ça vient des étoiles principales dont le nom retourne à l'Antiquité, il y a 4000 ans. Reconnu chez le monde arabe, chez le monde de différentes langues. C'est les mêmes noms qu'on utilise dans les magazines aujourd'hui d'astronomie, des noms anciens qui datent de 4000 ans. Et d'où vient la compréhension de ces noms-là? Par ces noms-là anciens qui nous donnent l'idée de qu'est-ce qu'ils sont exactement, ces images arbitraires mises autour de des étoiles qui ressemblent à tout sauf ce qui est dessiné. Et tandis, c'est Dieu qui fait paraître à leur temps. Et à l'époque, sur les vieilles planétosphères, le grand ours, en réalité, c'est une bergerie. Et le petit ours, une petite bergerie, tout simplement. Et chacune des étoiles conserve les noms, les 7 étoiles principales. Je pourrais vous les donner, mais ce n'est pas mon but ce matin. Mais c'est pour vous dire, Dieu utilise tout ça et dit, c'est moi qui fais paraître en leur temps. Et s'il y a quelque chose à dire, c'est moi qui ai quelque chose à dire. Pas ce que les êtres humains en font comme usage et qui font de la mythologie et toutes sortes d'histoires. Si vous voulez regarder quelque chose d'intéressant, il y a le pasteur James Kennedy, il y a une vingaine d'années, qui a fait une série à l'église presbytérienne de Fort Lauderdale, une série de 6 dimanche soir, à enseigner l'Évangile dans les étoiles, d'une façon simple et édifiante et de toute beauté, mais qui ramène à ce que tout ce qu'on a devant nous a été perverti, touché, brisé par le mal, mais Dieu est à l'origine de tout. Et on va parler de d'autres choses dans 2 semaines aussi que le mal utilise pour distraire de Dieu, et pourtant, ces choses-là pointent vers Dieu. Quand on regarde tout ça, ça pointe vers un créateur intelligent qui connaît chaque étoile, qui les a placées, qui les a nommées, qui les connaît par nom, nous dit le livre d'Ésaïe. Dieu qui connaît les étoiles par nom, ils ont des noms. Pour dire comment le créateur connaît des choses qui nous dépassent juste complètement et qu'on est à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il continue maintenant avec des animaux. Là qu'il a montré qu'il n'était pas capable de répondre sur plein de questions, il va aller maintenant dans le règne animal et confronter Job à plusieurs animaux. Et là, je vous en lis quelques extraits ici, au chapitre 39. « Chasses-tu la proie pour la lionne? » Chapitre 39, verset 1. « Apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu? » Quand ils sont errants et affamés, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Ces bêtes-là étaient bien connues. Hein? Je me rappelle avoir été sur le bord de la mer morte, en Israël, et qu'on allait vers le centre, et on arrive près de En-Gedi, où il y a une source qui arrive du désert de Judée, où il y a eu justement l'histoire hein, avec Saül dans une caverne, dans une des cavernes sur les sources d'En-Gedi. Et qu'est-ce qu'on n'a pas quand on arrive au bout, près de la mer Morte, et qu'il y a des roches escarpées? Des chèvres. C'est exactement ces chèvres-là, des chèvres et différents types de chèvres, d'autres plus grosses, plus petites, et des antilopes. De montagne. Il dit, ces bêtes-là que vous connaissez bien, que vous voyez dans cette région du monde. Est-ce que tu es capable d'expliquer tout le phénomène biologique de comment ils fonctionnent, de pourvoir aux besoins de ces animaux-là? Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils l'entourent et ne reviennent plus après auprès d'elle. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation et de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas le cri d'un maître pour dire qu'il n'écoute pas personne. Il parcourt les montagnes pour trouver la pâture et il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle, et continue ici avec différents animaux. Les 12 animaux décrits ici, certains qu'il décrit plus en détail, d'autres qu'il mentionne en passage, 6 bêtes, 5 oiseaux et un insecte, illustrent tout le génie créateur et le soin providentiel de Dieu. À juste titre, la liste commence par le lien du roi des animaux et termine avec le mot sur l'aigle, le roi des oiseaux. L'incompétence, et l'auteur nous dit ici, l'incompétence et l'ignorance de Job se voient dans le fait qu'il était incapable, premièrement, de pourvoir à la nourriture de ces animaux-là, les 2 premiers animaux, verset 1 à 3. Puis qu'il ignore toute de la naissance de 2 autres animaux, comment ça fonctionne, la gestation, l'arrivée, le temps, etc. Troisièmement, qu'il était incapable soit de libérer ou soit de domestiquer les 2 autres animaux, l'âne sauvage, le buffle. Quatrièmement, il dit qu'il ne confiera, excusez-moi, qu'il ne confiera, excusez-moi, leurs caractéristiques curieuses. OK. Il dit, es-tu capable d'expliquer comment ils sont faits aussi curieusement, entre autres l'autruche? Hein, un drôle d'animal, assez unique. Es-tu capable de m'expliquer comment il fonctionne? Comment qu'elle est négligente avec ses œufs? Comment qu'elle fait des affaires vraiment imbéciles? Puis comment Dieu protège qu'il y ait une descendance qui sorte de cet animal-là, bête, qui s'occupe mal de ses œufs, etc.? Es-tu capable de m'expliquer tout ça, Job? Non, j'ai rien à dire. Ou encore le cheval, ni leur capacité de voler aux deux derniers, au verset 29, 30 et 33. On pourrait penser que l'homme étant supérieur aux animaux serait les contrôler, prendre soin, mais Dieu montre à Job qu'il était d'une certaine manière même inférieur ici dans ses capacités à pouvoir expliquer au sujet de ces animaux-là, alors que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, il résume essentiellement ces grandes lignes ici avec les animaux suivants, le lion et le corbeau, le bouquetin ici, qui est le nom utilisé ici pour cette chèvre de montagne et une autre sorte d'animal qui est mentionné, l'âne sauvage, ensuite le buffle et l'autruche, tous des animaux dont la complexité, les habitudes de vie dépassent complètement la connaissance humaine, le cheval, l'aigle. Et le cheval, qui évidemment est une grande source de bénédiction pour l'homme, pour tout le travail qu'il a permis de faire à travers les années, défricher les champs, les champs de bataille avec les chevals, etc. Cet animal qui évidemment a marqué l'histoire humaine par l'usage qu'il fait. Et pourtant, es-tu capable d'expliquer tout ce qu'il fait, comment il fonctionne, son caractère, ses habitudes de vie, comment il se reproduit? C'est pas mal ça la réponse qu'on a. Ça me dépasse. Ah oui, peut-être aujourd'hui, avec tous les magazines, les recherches scientifiques, on a acquéri plus de connaissances. Et pourtant, on revient toujours à, ouais, mais comment il a pu être créé? Comment que cette complexité-là pouvait être mise tout ensemble, réfléchir à tout ça, la planification de tout ça, l'environnement écologique qu'il faut pour permettre la reproduction et la pérennité d'un animal comme ça? Dans un écosystème tout équilibré, avec des carnivores, etc., des herbivores, des insectes, etc. Dépassé complètement dans ces questions-là sur la puissance et la grandeur du Créateur. Et là, maintenant, on regarde la réaction de Job, sur laquelle on veut capitaliser en cette fin d'enseignement. Regardons-la ensemble. Et pour certains, évidemment, il y a des fois juste pour vous dire ici, quand on lit les versets, il y en a pour qui, des fois, dans leur version, le verset 34 du chapitre 39 se trouve dans le chapitre 40. Les chiffres, des fois, ont été d'une version à l'autre, anglaise et française, et dans différentes versions françaises, des fois, ça joue. C'est les mêmes versets, c'est juste des fois, il y en a plus dans un chapitre, moins dans un autre chapitre, selon une version à l'autre. Alors, il y a souvent de la confusion ici lorsqu'on donne les versets. Mais au chapitre 39, verset 34, on lit ceci, OK? Certaines traductions le mettent au chapitre 40, mais dans la mienne ici, c'est au verset 34 du chapitre 39. L'Éternel, s'adressant à Job, dit, « Celui qui dispute, et c'est vraiment ça ici, là, celui qui est en train de se quereller avec moi, c'est le mot que Dieu utilise, qui est en train de faire un plaidoyer, c'est le mot qu'on utiliserait en cours, qui fait un plaidoyer contre moi, là, qui veut son droit, là, qui s'ostine avec moi, puis qui fait paraître ses preuves et ses arguments contre le Tout-Puissant. Est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? » Et là, c'est le silence. C'est le silence. Mais Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Qu'est-ce que je pourrais faire revenir à toi qui serait utile, pertinent et vrai? » C'est ce qu'il dit littéralement. « Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Il est déjà rendu ici à une première étape de compréhension. Déjà ici, une partie du cheminement qui devait se faire, qui se fait ici par sa réaction. La réponse de Job, ma réponse à Dieu. Il reconnaît sa petitesse devant Dieu et qu'il est fou de vouloir se défendre davantage et de continuer à réclamer à Dieu des explications, de réclamer à Dieu qu'il montre que ces gars-là sont trompés et qu'ils me jugent, puis « Toi, tu le sais, Seigneur, que c'est pas vrai, justifie-moi! » Dieu avait lancé le défi et Dieu termine ici, et pas termine, en fait, on est à mi-chemin. La réponse de Job est déjà en train de cheminer, son attitude. C'est correct, j'ai trop parlé, Seigneur. J'ai trop parlé. Je vais arrêter. Je reconnais que je ne sais pas grand-chose. L'humilité, il s'est exprimé. Je vais mettre la main à ma bouche. Oh, moi le premier, là. Combien de fois, après coup, je me dis, oh, j'aurais dû mettre ma main sur ma bouche. Vous arrivez des fois d'être découragé de vous-même, de trop parler, juger trop vite, d'avoir donné une réponse toute faite trop vite. Moi, ça m'arrive souvent. Je dois me repentir régulièrement, dans toutes sortes de situations. L'humilité. Et là, on voit de l'humilité, mettre la main à la bouche. Un silence respectueux. Un silence de révérence à Dieu. Les questions dirigées à Dieu qui sont sans réponse peuvent produire dans notre cœur facilement de l'arrogance. C'est le phénomène ici de poser des questions. On se pense, bon, on répond à ça. Ça cultive l'arrogance. Cependant, lorsque c'est Dieu qui pose les questions, c'est l'homme qui est sans réponse et dans cette tempête que le changement d'attitude prend place tout à coup. La tempête, vous savez, a sa place et est nécessaire. Il accepte qu'il est petit devant Dieu et que la tempête a une utilité ici, montrant la grandeur d'un Dieu auquel il a trop émis de questions douteuses. Il me pose la question ce matin, quelles sont les questions que je cultive? Est-ce que je cultive beaucoup des questions auxquelles j'ai droit des réponses de la part de Dieu? Ou est-ce que je cultive les questions de Dieu dans ma vie pour me garder à ma place? Et Job nous donne ici, dans son livre, un paquet de questions de Dieu qui me ramènent à ma position de créature devant mon Créateur, de respect, de révérence. Il me ramène à ma place. Ceci dit, ici, le Créateur connaît le cœur humain. Et Job n'est pas encore pleinement rendu à la dernière étape. Il va poursuivre avec une série de questions qu'on va regarder dans 2 semaines pour l'amener à une pleine repentance, une pleine compréhension. Mais déjà ici, on voit une étape qui est franchie dans la réponse préliminaire qu'on a ici. Nous préférons toujours que Dieu nous parle au beau soleil sur le bord d'une plage. Les deux pieds dans l'eau chaude. Toujours. Mais parfois, il doit nous parler à travers une tempête pour qu'on comprenne. C'est ainsi qu'il a parlé à Israël dans le passé, au mont Sinaï, et des siècles plus tard à Élie. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu dans son premier chapitre d'Ézéchiel à travers une tempête où il entend la voix de Dieu lui parler et une vision de la gloire de Dieu particulière. Expérimenter la démonstration magnifique de la puissance de Dieu a rendu Job plus sensible au message de Dieu et l'amener à un état d'humilité pour accepter les circonstances sans se justifier, sans se plaindre. La tempête est finalement tombée sur les 5 hommes assis sur ce tas de cendres. Et Dieu parle à Job depuis la tempête. Nous aimerions tous, évidemment, que vienne autrement, mais écouter la voix de Dieu dans la tempête accomplira de bonnes choses dans mon âme. Et quand la tempête fut terminée, Job était prêt à rencontrer Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous éclaire dans les difficultés. Une trop grande profusion de paroles humaines obscurcit les desseins de Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici 2 fois. Qui est celui qui obscurcit? Et Dieu va revenir à la charge dans les versets qui vont suivre. Qui est en train de tout mélanger ici, mes plans, puis de les rendre confus, puis de faire apparaître tout ça comme noirceur? Alors que la parole de Dieu, elle est claire. Job prétendait en savoir beaucoup sur Dieu, alors que Dieu examine sur quelques sujets la création, les règles de la nature, les étoiles, les nuages et le comportement des animaux, des oiseaux. Nul besoin de dire que Job a échoué l'examen et nous aurions échoué tout autant que lui, les premiers, et bien avant lui, pour ma part, bien avant Job. Les problèmes de la vie ne sont pas résolus par des raisons, mais par des relations. J'ai aimé cette citation-là du pasteur Wiersbe. Job voulait raisonner avec Dieu, mais ce dont il avait vraiment besoin, c'était du repos en Dieu. Et qui vient comment? Par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, le livre aux Hébreux, Dieu le fait par une relation avec son Fils Jésus, pour amener cela. Job a vu la grandeur de Dieu et sa propre petitesse, et il fut le point tournant ici, dans sa vie. Par contre, le plus petit nous sommes à nos yeux, le plus grand nous sommes à ses yeux. Pas pour se dénigrer ici, on ne parle pas d'autoflagellation et de se diminuer notre valeur, mais d'arrêter de se pomper une plus grande valeur que nous sommes et d'accepter où nous sommes. Il dit, je reconnais que je suis léger. Et tout à coup, quand je suis léger, qu'est-ce qui arrive? Il y a plus de place pour celui qui est fort, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir nous conduire dans un dernier chant. Et j'ai bien aimé ces paroles d'un auteur de livre et qui résume bien ici la fin de ces derniers chapitres de Job. « J'avais un million de questions, disait l'auteur, à poser à Dieu, mais lorsque je l'ai rencontré, elles m'ont toutes échappé et cela ne semblait plus avoir d'importance. » Et donc la question ce matin, c'est que peu importe que je suis dans une épreuve ou non, que je trouve ça difficile ou non, est-ce que je l'ai rencontré, lui, le Créateur que Job a rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré personnellement pour comprendre son plan, pour que sa présence soit suffisante pour ce que je vis, plutôt que d'avoir toutes les raisons que j'aimerais avoir droit, mais que le Créateur ne juge pas bon ou nécessaire que j'aie? C'est ça la foi. Faire confiance dans un Créateur fiable, tout-puissant. Voilà ce qu'on veut cultiver dans notre vie. Et ça passe par la personne de Jésus-Christ. Et ensemble. Père Céleste, certainement ce matin, en entendant ces questions-là, ça n'enlève pas nos questions à bien des égards. Mais peut-être, Seigneur, est-ce que ça peut apporter à diminuer l'importance de mes questions à mes oreilles? Et que ce soit plutôt tes questions à mes oreilles qui prennent plus de place, Seigneur. Parce que tes questions travaillent mon cœur, labourent mon cœur d'une bonne façon. Mais mes questions, Seigneur, cultivent dans mon cœur à moi de l'arrogance, de la prétention, de l'auto-justification de paraître toujours mieux que je le suis. Plutôt que de laisser la place à la légèreté qu'il y a dans ma vie, d'être un pécheur perdu qui ne vaut pas grand-chose sur une balance devant Dieu. J'ai besoin de toi, ô Dieu. J'ai besoin de ton Fils Jésus, qui, lui, pèse fort sur la balance, dont, lui, le poids permet le salut du monde, comme on a parlé tantôt en prenant le repas du Seigneur, pour tous ceux qui croient. Et donc, la question ce matin que tu nous demandes, Seigneur, c'est est-ce que tu crois en moi? C'est toi qui nous poses cette question, Seigneur. Est-ce que tu crois en moi, ton Créateur? Est-ce que tu crois en mon Fils Jésus que j'ai envoyé pour te sauver? Et est-ce que tu lui donnes la place ou c'est toute la place de tes questions qui enivrent ta vie et qui te détruit, qui rend ta vie confuse et insatisfaisante? Oh, ça n'enlève pas toujours les difficultés, ça n'allège pas toujours la souffrance du deuil. Mais quel changement de perspective, Seigneur, ça produit dans ma vie lorsque je te vois plus grand et que je me vois plus petit et que déjà les questions auxquelles tu as déjà répondu, les connaissances que tu me donnes dans ta parole sont amplement suffisantes pour me conduire avec l'aide du Saint-Esprit chaque jour. Tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur. Ton Esprit, après le départ de ton Fils Jésus, est venu parmi nous pour accompagner le croyant. On n'est pas largué seul sur cette terre. Non, la présence du divin est en nous lorsqu'on croit en ton Fils Jésus. On te remercie, Seigneur.
Oh, conduis-nous, Seigneur, tout particulièrement pour ceux et celles qui présentement sont dans la souffrance, dans la maladie, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans les précarités relationnelles, dans des souffrances, des injustices, des situations en cours, des inquiétudes financières. Oh, Seigneur, soutiens dans cette épreuve et que ta grandeur soit la réponse à mes problèmes. Que ta toute-puissance créatrice, que ton amour bienveillante soit la réponse qui calme mon cœur. Et nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.